Merci Bernard, merci Sophie. Ça m'introduit ce que je vais vous dire maintenant. Et donc, je vais élargir le propos. Et je vais partir peut-être de la Bible. Pourquoi ? Parce que, il me semble, sur un sujet aussi grave, aussi douloureux qu'est la solitude, je ne peux pas me permettre de demi-réponse. Et la question de la solitude, vous avez entendu Bernard et Sophie, elle pose la question de Dieu et du sens de la vie. Et selon moi, j'ai une réponse de croyant, mais selon moi, votre vie a un sens qui dépasse votre épanouissement personnel, qui dépasse votre paix intérieure et qui dépasse même votre bonheur. Pour savoir pourquoi vous êtes sur terre, si vous commenciez avec Dieu. Il me semble que si les hommes ne trouvent pas de réponse au sens de leur vie, c'est parce qu'ils partent uniquement d'eux-mêmes. Que vais-je devenir ? Que vais-je faire de ma vie ? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes projets ? Or, ce n'est pas en se centrant seulement sur soi que l'on découvre le véritable sens de sa vie. Prenez un objet qui a été inventé, dont vous ne connaissez pas le fonctionnement. Si vous voulez savoir comment fonctionne cet objet, vous avez deux choix. Soit vous adresser à son concepteur, soit lire le mode d'emploi. Eh bien, il me semble que c'est la même chose pour l'homme et pour sa vie. Pour trouver des réponses au sens de votre vie, commencez par demander à Dieu, entre guillemets, votre concepteur. Car il est le créateur de tous et de tout. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu, et je crois que comprendre cela est le début d'une réponse à la question du sens de votre vie. Alors que dit donc la Bible sur la solitude de l'homme ? Une phrase connue que j'ai déjà citée, que je vous recite, c'est au tout début de la Bible, où Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je pense que vous êtes tous d'accord avec cela. Et alors, si vous lisez le texte, Dieu va commencer par créer des animaux. Et il va donner à l'homme de nommer les animaux. Juste après cette phrase. Je pense que certains d'entre vous, si vous avez un animal de compagnie, vous vivez déjà de ce que dit la Bible. C'est-à-dire, l'animal est déjà une présence pour l'homme et la femme. Mais Dieu n'est pas satisfait. Il va donner à l'homme un autre que lui. Cet autre sera en premier la femme, que l'homme va appeler l'os de mes os. Voilà le premier remède à la solitude de l'homme, la relation avec une femme, c'est-à-dire la relation avec un autre qui n'est pas moi, mais qui est mon égal et qui a un visage différent du mien. Cet autre n'est pas moi tout en étant intimement lié à moi. Adam, c'est son nom du premier homme, il dira « l'os de mes os ». Qui dit une intimité. Vous voyez déjà que la Bible dit que tout être humain est créé unique, seul de son espèce, mais relié à d'autres que lui. Et c'est là que réside la solitude. Celle-ci, à ce stade, n'est pas mauvaise, elle n'est pas douloureuse, elle est bonne, car elle dit l'unicité de chaque être humain. La solitude dit que vous êtes tous uniques et irremplaçables. La deuxième chose que dit la Bible, et c'est Jésus qui dit cela, c'est ce commandement que souvent on redit, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va unir les hommes entre eux, les hommes et les femmes, les êtres humains, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Alors après 2000 ans de christianisme, après plein de progrès de la philosophie, de la pensée humaine, ça peut paraître évident en 2019, mais en fait ça ne l'est pas. Et il suffit de regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ces guerres et avec tous ces génocides qui pourtant ne sont pas si loin de nous dans le temps. Et donc le mal sera toujours d'abord un défaut d'amour et un manque d'amour. Et c'est pourquoi la solitude est si douloureuse. Parce qu'elle montre la précarité de l'amour. C'est-à-dire, je vis sur cette terre en tant qu'être humain avec un besoin vital d'amour et pourtant, je fais l'expérience, peut-être tous les jours, de manquer d'amour. Et c'est là qu'est la racine, non pas de la solitude, mais de la souffrance de la solitude. J'ai employé le mot ou l'expression précarité de l'amour. C'est un grand mystère de l'homme. L'homme est à ce point paradoxal qu'il a un besoin vital d'amour. Sans amour, aucun de vous ne peut vivre. Et pourtant, vous ne pouvez jamais forcer l'autre à vous aimer. Vous ne pouvez jamais forcer l'autre à vous aimer. C'est comme si, pour vous nourrir, alors que vous avez un besoin vital de nourriture, eh bien, vous ne pouviez jamais acheter de nourriture, cultiver, vous ne pouviez jamais vous procurer de la nourriture par vos propres forces, mais que vous étiez obligé d'attendre qu'on veuille bien vous en donner. Parce que l'amour a ceci de particulier, qu'il n'y a d'amour que librement donné. Il n'existe pas d'amour forcé. Dans un monde idéal, l'amour entre nous serait permanent et intense parce que, notamment, nous n'aurions pas peur les uns des autres et nous ne nous ferions aucun mal. Et le drame de l'homme, ici-bas sur la terre, le drame de l'homme et de la femme, c'est de croire de manière illusoire qu'ils peuvent acheter l'amour. Et de là, tous les comportements de séduction, de manipulation, de mensonge. Parce que nous sommes prêts à tout pour plaire. Parce qu'encore une fois, c'est un besoin vital qu'il y a en nous. Et nous avons donc un besoin vital que les autres nous aiment, nous remarquent et nous considèrent. De là aussi que certains d'entre nous, insatisfaits de ce que les autres leur apportent, eh bien se réfugient, je vais dire, dans des ersatz d'amour, dans des produits frelatés, comme la drogue, comme la recherche du plaisir effréné, dans le matérialisme, les écrans, etc., etc. Déçus par les autres, ils croient que les choses leur apporteront ce qu'ils cherchent de tout leur cœur. Et je pense qu'ils savent que c'est une illusion. Les choses, les divertissements ne combleront jamais totalement le cœur d'un être humain. Cela dit, qui pourrait dire que les relations avec les autres le comblent pleinement? Qui n'a jamais été blessé et déçu par un ami, un parent, un conjoint? De là la souffrance de la solitude. Alors, où trouver l'amour? Ce matin, j'ai une double bonne nouvelle pour vous. La première, et c'est ce que dit la Bible, et c'est très profond en réalité, c'est que Dieu est amour. Je pense qu'on devrait apprendre c'est tout simple à apprendre par cœur, Dieu est amour. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dans 10 jours, c'est Noël. Alors Dieu est amour. Ben oui, seul l'amour peut combler la solitude du cœur de l'homme. Je pense que nous sommes tous d'accord. La solitude et la souffrance qu'elle occasionne révèlent cette béance, ce gouffre, ce vide du cœur humain. Il a besoin pour vivre d'un amour infini. Et la Bible dit, Dieu est amour. Vous avez entendu les témoignages de Bernard et Sophie. Ils ont fait une rencontre. Ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Et la Bible dit des choses très fortes. Par exemple, elle dit au prophète Jérémie, enfin elle dit à propos du prophète Jérémie, c'est Dieu qui lui parle, et qui dit, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai couvert de mon amour. Et c'est aussi vrai pour vous. Un autre prophète, Isaïe, Dieu dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. N'aie plus peur, car moi, Dieu, je suis avec toi. N'aie plus peur, car moi, Dieu, je suis avec toi. Mettez-vous à la place du prophète Isaïe. Mettez votre prénom à la place. Et entendez cette parole de Dieu pour vous qui vous dit « Je suis avec toi ». Je pense que si vous entendiez cette parole de la part de Dieu, votre cœur exploserait de joie. Découvrir que Dieu m'aime, n'est-ce pas la réponse que votre cœur attend et qui apaisera la souffrance de votre solitude ? Car si Dieu est amour, il est aussi parfait dans l'amour, ce qui signifie qu'il ne vous abandonnera jamais. Il y a une autre parole que Dieu dit au prophète Isaïe. Une maman peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Dieu vous dit, je ne t'oublierai jamais. Alors peut-être que vous vous dites, je ne suis pas digne de cet amour. Peut-être que vous vous dites avec un peu de tristesse, mais moi je ne pourrai jamais rencontrer cet amour. Je n'en vaux pas la peine. Alors rassurez-vous, je ne sais pas si c'est rassurant d'ailleurs, mais aucun d'entre nous n'en est digne. Et la bonne nouvelle de la Bible, c'est justement de nous dire, de dire à tous le pardon infini de Dieu pour tous les hommes et pour toutes les femmes de tous les temps. Dieu ne cessera jamais de vous aimer. Son amour ne repose pas sur ce que vous faites ou sur ce que vous ne faites pas. L'amour que Dieu a pour vous repose sur qui il est, lui. Et je l'ai déjà dit, il est amour. Il a décidé de vous aimer jusqu'au bout. Noël, deuxième bonne nouvelle. Noël. C'est quoi Noël ? C'est Dieu qui vient vivre parmi les hommes comme un homme. Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, est né d'une femme, Marie, dans une maison de Palestine il y a 2000 ans. Événement extraordinaire, Dieu s'est fait homme. Et il a tout vécu de l'homme. Il a tout vécu de l'homme. Notamment, il a connu les deux plus grandes souffrances de la solitude, car la veille de sa mort, il a été trahi et il a été abandonné par ses plus proches amis. Oui, Dieu sait ce qu'est la solitude. Dieu connaît la souffrance de la solitude. Il l'a vécue. Et donc Noël, si c'est l'anniversaire de Jésus, si c'est l'anniversaire de Dieu qui se fait homme, c'est l'expérience concrète, sensible, de l'amour de Dieu pour vous. Expérience intérieure. Noël, c'est la guérison de mes blessures. C'est la guérison des blessures de mon cœur. Par le baume qu'est l'amour de Dieu. Noël, certes, ce sont les cadeaux, mais c'est surtout un cadeau, le cadeau par excellence, Dieu lui-même. Et il est bon d'offrir des cadeaux à Noël, justement, parce qu'à Noël, nous vivons de l'amour que Dieu donne. Donc à Noël, je vous invite, chers amis, à faire des cadeaux. Et notamment à faire le cadeau de votre temps. Pourquoi le temps ? Parce que le temps, c'est le bien le plus précieux que vous ayez. Faites-vous un cadeau. Faites aux autres un cadeau, le cadeau de votre temps. En écoutant Sophie, vous voyez comment elle s'est offert, entre guillemets, du temps pour elle, en allant à ce voyage dans le désert. Alors donnez-vous du temps, non pas pour perdre votre temps, mais pour prier, pour parler à Dieu, pour lire, pour chercher Dieu. Vous voyez, dans cette église, en janvier, le 9 janvier, nous allons lancer ce qu'on appelle le parcours Alpha, qui est d'abord une première soirée, le jeudi 9 janvier, pour commencer un parcours qui sera plus long, mais qui est un temps que je peux me donner pour mieux connaître Dieu et pour découvrir avec les autres, dans une ambiance fraternelle autour d'un repas, qui est Dieu, et je peux poser toutes mes questions. Enfin, donner du temps aux autres. Faites le cadeau de votre temps aux autres. En allant visiter vos proches, en servant les plus pauvres, vous avez entendu Bernard, comment Dieu l'a visité dans sa solitude et comment il a décidé de donner du temps à d'autres via une association. Voilà. En conclusion de tout ce que je vous ai dit, croyez que Dieu vous aime. Voilà. Faites peut-être, là on va avoir un temps, vous allez pouvoir faire des démarches, des actes concrets dans lesquels vous allez pouvoir dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai tellement besoin de sentir cet amour dont Bernard et Sophie ont parlé. » Beaucoup d'entre nous ici, on a fait cette expérience, j'ai fait cette expérience qui a changé ma vie, et c'est pour ça que je suis prêtre aujourd'hui. C'est parce que j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi, et que je veux vouer ma vie à le faire découvrir. Voilà. Je vais laisser la parole au chant.